Joseph Vincenzini, un crime à la Corse. Face à l'évidence, Xavier Luciani passe aux aveux. Il avoue avoir eu l'intention de rembourser Joseph ce soir-là. Il s'est rendu chez lui avec une enveloppe contenant 13 000 euros. Cependant, la visite prend une mauvaise tournure. Une dispute éclate, des coups sont échangés, et Xavier, dans un geste impulsif, saisit un couteau et porte un coup mortel au visage de Joseph. Les gendarmes sentent que son récit contient des incohérences. Ils attendent les aveux de Nathalie pour mieux comprendre le déroulé de la soirée. Interrogée dans une autre pièce, la serveuse persiste à nier toute implication. Elle admet toutefois entretenir une relation avec Xavier, mais ne sait rien de plus. Quant à Xavier, il finit par avouer être rongé par la jalousie, au sujet de la relation entre sa maîtresse et le patron de l'Oasis. Sa version des faits change subitement. Ce dimanche, Xavier appelle Nathalie pour qu'elle prenne soin de lui. Il est malade. Peut-être une indigestion alimentaire ou une gastro, il ne sait pas trop. Nathalie reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de Jojo à 23h39. Xavier, jaloux, feint alors d'aller mieux et part jouer aux cartes. En réalité, il se cache en bas de l'immeuble. Il veut observer tous ses faits et gestes. Depuis sa planque, il voit la serveuse monter dans la voiture de Joseph. Pris de rage, Xavier se rend dans la maison de son ami, armé d'un rouleau à pâtisserie. La porte d'entrée est entrouverte. Pris dans le feu de la passion, Joseph aurait oublié de la fermer. Xavier voit de la lumière dans la chambre, il ouvre la porte à la volée et se jette sur son ami, déjà dénudé. Nathalie, terrorisée, prend la fuite. Joseph est sans défense. Il propose au patron du restaurant de l'argent. Xavier, animé par la rancœur et l'humiliation face à la richesse de Joseph, le conduit jusqu'au coffre. Une bagarre éclate et un coup mal placé, porté avec son rouleau à pâtisserie, tue Joseph. Xavier dérobe alors 2000 euros du coffre, selon ses déclarations, enveloppe le corps dans une couette maintenue par du scotch de déménageur et le charge dans sa voiture. Il se dirige vers le petit village de Santa Lucia di Mercurio, où se trouve une porcherie. Là-bas, il utilise les couteaux de Joseph pour découper la tête. À l'origine, il prévoyait de jeter le corps au cochon pour qu'il puisse le dévorer. Toutefois, devant l'horreur de son acte, il abandonne cette idée, replace le corps sans tête dans le coffre de sa Peugeot. Quant à la tête de Joseph, elle est placée dans un sac avec les couteaux et d'autres effets personnels de la victime. Il jette son sac dans le conteneur à poubelle, puis dépose le corps sans vie dans le coffre. Il prévoit de laisser son véhicule sur un terrain isolé qui appartient à sa tante, jusqu'à ce qu'il puisse enterrer le corps. En plein hiver, la terre est trop dure pour être travaillée. Au même moment, Nathalie fait de nouvelles révélations. Il est vrai que Jojo lui courait après depuis un certain temps et qu'ils ont fini par devenir amants. Elle raconte qu'après son coup de fil ce dimanche soir, elle monte effectivement dans sa voiture pour se rendre chez lui. Jojo laisse les clés sur le contact. Il a l'intention de coucher avec elle, puis de la raccompagner aussitôt. Il la conduit dans la maison et, contrairement à ses habitudes, ne ferme pas la porte derrière eux. Ils entrent dans la chambre où Joseph se déshabille et Nathalie commence à lui faire une fellation. La porte s'ouvre brusquement. Ici, Nathalie mentionne la présence d'un homme masqué. Elle n'a pas reconnu Xavier Luciani. Elle s'est enfuie de la chambre et est rentrée chez elle. Les enquêteurs émettent deux hypothèses. Soit Nathalie essaye de protéger son amant, soit il y a eu l'intervention d'un complice ou de plusieurs. Les prélèvements ADN réalisés dans la chambre, près du coffre et dans la voiture de la victime, donneront des réponses plus précises. Mais il faut attendre. À la fin de leur garde à vue, Nathalie Battesti et Xavier Luciani sont mis en examen. La serveuse est poursuivie pour non-dénonciation de crime, tandis que Xavier Luciani est inculpé pour assassinat. Le rapport d'autopsie de Joseph Vincenzini révèle une décapitation effectuée hâtivement, avec une découpe maladroite et plusieurs côtes cassées sur le corps du défunt. Les causes exactes de sa mort sont difficiles à déterminer. En Corse, la mutilation d'un corps est inacceptable. Toute la communauté corse réclame une condamnation sévère pour Xavier Luciani. Mais peut-on comprendre ses motivations? Devant le juge d'instruction, il dit être un homme profondément blessé. Il est amoureux de Nathalie, Joseph le sait, mais ce dernier l'a délibérément séduite. Xavier est persuadé que c'était une manière pour Jojo de se faire rembourser les dettes de son ami. Selon lui, l'humiliation et la jalousie sont les principaux motifs de son geste. Il dit aussi qu'il en avait marre que Joseph prenne l'habitude de manger au restaurant avec ses amis, qu'il se comporte comme un maître de maison devant tous ses autres clients. Depuis plusieurs semaines, c'était le même rituel. Joseph commandait tout ce qu'il voulait sur la carte, consommait avec ses amis ses bouteilles de vin et repartait sans payer. On commence aussi à parler de crimes d'honneur. Xavier Luciani raconte qu'un jour, Joseph avait donné 20 euros à l'une de ses filles pour qu'elle puisse aller à la fête foraine. Il lui avait dit qu'il lui donnait cet argent puisque son père était incapable de le faire. Luciani a considéré cela comme une atteinte à l'honneur familial corse. Il a voulu lui donner une correction, mais jure n'avoir jamais eu l'intention de le tuer. La mort de Joseph Vincenzini serait accidentelle, selon lui. Pour le juge d'instruction, le crime était au contraire intentionnel et minutieusement préparé. La présence du rouleau de scotch et la volonté de se débarrasser du corps de la sorte démontrent bien une préméditation, pas un coup de folie passagère. De plus, Nathalie avait déclaré que quelques jours plus tôt, Xavier lui avait demandé où il y avait une porcherie dans la région. Quelques semaines plus tard, les résultats de l'Institut d'analyse de la Gendarmerie nationale tombent. Deux ADN correspondent bien à ceux de Nathalie et Xavier. En revanche, un autre ADN n'a pas pu être identifié. La thèse du crime organisé est mise en avant. Interrogé à plusieurs reprises, le principal accusé affirme avoir agi seul. Les mois passent, l'enquête sur la présence d'autres coupables s'enlise. Nous sommes le 22 janvier 2006, il est 3 heures du matin. Alexandre Vitchen, membre du FLNC du 22 octobre, un groupe terroriste, est grièvement blessé par l'explosion d'une bombe devant le centre des impôts d'Aix-en-Provence. Une enquête policière mène à l'arrestation d'un des principaux membres actifs du FLNC, Dominique Pasqualaggi, enseignant à l'Université de Corse. Aussi différente puisse être la nature du crime, cet attentat est pourtant lié à la mort de Joseph Vincenzini. Gilles Berthiel, le juge d'instruction chargé de l'affaire, fait sortir Xavier Luciani de sa cellule pour qu'il réponde de complicité avec le groupe terroriste. Dominique Pasqualaggi connaît bien Xavier. Il a été vu plusieurs fois dans son établissement, à l'Échiquier. Les enquêteurs ont fini par découvrir que Luciani avait même prêté ses cuisines pour la préparation des bombes. L'interrogatoire du patron de l'Échiquier glisse rapidement vers l'affaire Vincenzini. Sans qu'on ait besoin de lui poser la question, Xavier accuse Pasqualaggi de l'avoir assisté. Nous sommes le 14 juin 2007. Pasqualaggi, qui avait été placé en détention provisoire à Paris, est interrogé dans les locaux de la sous-direction de l'antiterrorisme de la capitale. Les gendarmes veulent en savoir plus sur l'assassinat de Joseph Vincenzini. Dominique refuse de répondre. Il dit que ses menottes le gênent, demande à ce qu'on les desserre. Profitant d'un moment d'inattention des gendarmes, Dominique Pasqualaggi se défenestre. Il fait une chute de 3 étages. Grièvement blessé, il est hospitalisé d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il passe plusieurs semaines entre la vie et la mort, avant d'être déclaré handicapé à 80%. Par chance pour l'enquête, ses fonctions cérébrales sont intactes. Il est de nouveau interrogé à sa sortie d'hôpital. Une fois rétabli, il rejette les accusations de Luciani, ne comprenant pas pourquoi celui-ci le met en cause. Selon lui, Luciani cherche à se disculper ou à protéger quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est dénoncé par la serveuse et amante Nathalie Battesti. Elle confirme l'implication de Dominique Pasqualaggi dans le meurtre, mais parle également de Sébastien Giudicelli, le neveu de Luciani. De son côté, Joseph Sabiani, un autre membre actif du FLNC, arrêté dans le cadre de l'attentat, avoue avoir été approché par l'équipe pour participer à ce qu'il appelle l'opération Vincenzini. Sébastien Giudicelli est placé en garde à vue. C'est un jeune berger qui n'a pas encore 30 ans. Les gendarmes de Corté le connaissent. Ils l'ont déjà vu dans leurs locaux le jour de l'arrestation de son oncle Xavier. Il était venu spontanément se présenter pour dire qu'il n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Défendu par son père, il avait expliqué qu'il était à une fête d'anniversaire ce jour-là. Finalement, au moment de son interpellation, La famille avoue avoir menti pour défendre les intérêts de leur fils. Lui n'a fait que suivre les directives de son oncle. De nouveaux aveux de Sébastien et de son oncle permettent aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances du meurtre. Le crime orchestré par Xavier Luciani, motivé par une humiliation infligée par Jojo, ne doit pas être exempt de protection. Son instigateur craint des représailles de la part de la brise de mer. Il se tourne alors vers le FLNC pour assurer ses arrières. Il recrute Dominique Pasqualaggi et Joseph Sabiani, à qui il propose de l'argent pour le mouvement indépendantiste en échange de leur participation. La mission est simple, pénétrer chez Joseph Vincenzini, le voler et repartir aussitôt. Au début, il n'a pas parlé de meurtre. Le plan est minutieusement préparé depuis un appartement de Corté, avec la complicité logistique du FLNC. Les participants sont équipés de cagoules, de costumes noirs et d'armes fournies par l'organisation terroriste. Xavier manipule Dominique Pasqualaggi en exagérant les revenus à obtenir, tandis que Sébastien et Joseph Sabiani s'engagent pour leurs besoins financiers. Nathalie Battesti est mise à contribution pour attirer Jojo et éviter qu'il ne ferme la porte. Cependant, Joseph Sabiani finit par quitter le groupe lorsqu'il comprend que la finalité, c'est le meurtre de Vincenzini. Ce dimanche 23 janvier 2005, Nathalie rencontre Joseph Vincenzini en bas de chez elle. Il est venu la chercher en voiture. Juste avant de monter, elle passe un rapide coup de fil à Xavier. Une fois arrivée au domicile de Jojo, Nathalie s'arrange pour qu'il laisse la porte ouverte. Quelques minutes plus tard, alors que le couple est dans la chambre, Xavier surgit avec un rouleau à pâtisserie. Il frappe Joseph à plusieurs reprises. L'homme s'écroule, Xavier le pense mort. Sébastien simule un cambriolage en fouillant la maison. Pendant ce temps, Joseph a un peu repris ses esprits. La suite du récit n'est pas claire. Xavier parle d'une violente bagarre près du coffre de la victime et de l'intervention de Dominique. Luciani prétend que Pasqualaggi est celui qui a porté le coup fatal. Sébastien accuse également l'indépendantiste corse d'avoir aidé à placer le cadavre dans la voiture et à décapiter le corps pour le jeter dans l'enclos à cochons. Ensuite, Sébastien s'est débarrassé de la tête et chacun est rentré chez soi. Sébastien, très inquiet, ne dort pas de la nuit après cette expédition ultra-violente. Le lendemain matin à l'aube, il retourne à la porcherie et constate que le corps n'a pas été touché par les cochons. Il va alors prévenir son oncle. Ensemble, ils placent le cadavre dans le coffre du véhicule de Luciani et jettent la tête au fond d'un puits. Plus tard, sur la base d'un croquis des lieux réalisé par Sébastien, les enquêteurs vont retrouver la tête de Joseph Vincenzini. Le corps est complet, mais l'enquête comporte de nombreux vides. Les enquêteurs ne connaissent pas le montant exact de la somme qui a été dérobée. L'identité de la personne qui a donné la mort à Vincenzini n'est pas non plus définie. Mais surtout, cette nouvelle mise à jour du récit ne correspond pas au plan initial dénoncé par Joseph Sabiani. Lui parlait de meurtre avec préméditation. Xavier évoque toujours une mort accidentelle. Les jurés finiront bien par trancher. Nous sommes le 31 mai 2010. Le procès s'ouvre au palais de justice de Bastia et durera 2 semaines. Les principaux accusés se rejettent mutuellement la faute. Nathalie, brisée, peine à se pardonner son geste. Elle défend à sa manière les gestes de son amant. Elle déclare qu'il a agi ainsi parce qu'il l'aimait follement. Son avocat dit de Nathalie qu'elle a été manipulée. Durant l'audience, Luciani a reconnu son côté manipulateur. Il parle de ses actes avec fierté. En revanche, il rejette la faute sur Pasqualaggi. Ce dernier reste silencieux. L'expert psychiatre qui l'a examiné, le docteur Yves Thirode, le décrit comme un homme qui a toujours voulu garder sa part de mystère. Il nie avoir participé, mais affirme connaître le fil des événements, ce qui renforce les soupçons qui pèsent sur lui. Pour son avocat, cela ne fait pas de lui un coupable. Dominique n'a aucun lien avec les dettes de jeu de Xavier, et son profil ne correspond pas à celui d'un tueur. Âgé de 36 ans, Dominique Pasqualaggi est un passionné d'histoire. C'est un intellectuel qui obtient brillamment un DEA, un diplôme de niveau master, et s'est lancé dans une thèse de doctorat à l'université de Corté. Spécialiste des églises romanes, il a publié des articles remarqués dans des revues scientifiques. Rien n'indique qu'il a porté le coup fatal, mais tout le monde veut le voir tomber. Son caractère nationaliste et son appartenance à un groupe terroriste font de lui le coupable idéal. En plein milieu des audiences, Sébastien se lève dans le box des accusés, en pleurs, et accuse Pasqualaggi. Face à une situation aussi confuse, les jurés rendent leur verdict le 10 juin 2010, après 3 heures de délibéré. Xavier Luciani obtient la plus lourde peine, avec 30 ans de réclusion criminelle. Dominique Pasqualaggi prend 25 ans, Sébastien Guidicelli, 15 ans. Bien qu'il ait aidé à dissimuler le corps et probablement à le décapiter, la peine est moins lourde, car compte tenu de son jeune âge, les jurés ont jugé qu'il avait été manipulé par son oncle. Nathalie, l'autre manipulée de l'affaire, prend 10 ans pour sa participation à l'acte et sa non-dénonciation du crime. Joseph Sabiani, qui n'a pas participé, mais a délibérément choisi de ne pas dénoncer le crime dont il connaissait l'existence, est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Le 9 février 2011, la cour d'appel de Bastia a rejeté la requête pour raison médicale de Pasqualaggi. Son avocat affirme que l'administration pénitentiaire peine à lui prodiguer les soins nécessaires pour ses infections. Sa demande de jugement en appel est acceptée, mais le second procès, qui se tient le 15 mars 2011, ne fait qu'alléger sa peine. Dominique Pasqualaggi est libérable après 18 ans de prison. Nathalie Battesti bénéficie également d'un allègement de peine de 3 ans. En revanche, pour Xavier Luciani, la peine est maintenue à 30 ans de prison. L'affaire Joseph Vincenzini est close. Elle n'a donné que des réponses partielles. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas qui a porté le coup fatal et quelle somme a été volée à Jojo, dont le succès a fait tant de jaloux.